Salut à tous et à toutes. Vous êtes sur RTF et vous écoutez Les Barricades Mystérieuses, une émission consacrée à la littérature, enfin au livre, mais aujourd'hui à la littérature et à la musique classique. Alors, comme d'habitude, ben, des choses très connues et puis des choses moins connues, vous allez voir. Nos livres, alors, deux excellents livres, c'est pas toujours le cas, encore que je ne chronique que des livres qui en valent la peine, mais là, cette fois, vraiment, deux livres très intéressants, un livre de François Sureau, son dernier livre, je vous en parlerai tout à l'heure, et puis le dernier livre aussi de Abel Quentin, qui s'appelle Cabane, et c'est... Bon, j'avais déjà chroniqué un roman de Abel Quentin. Et puis, ben, musique, on a quoi ? Des gens connus, comme Haydn, mais des gens moins connus, comme Obrecht, et comme je suis sûr que Obrecht n'est pas le plus connu de vous, et même de Elisabeth Jacquet de la Guerre. Il y en a qui m'ont reproché de ne pas faire une part suffisante aux musiciennes, aux compositrices femmes. Alors voilà, j'en ai trouvé une, c'est quand même une des plus connues, peut-être la plus connue, en tout cas de son époque. Voilà, et puis même une petite surprise, c'est une valse de Strauss, mais orchestrée, tenez-vous bien, par Alban Berg, le dodécaphoniste. Bon, alors, pour commencer, eh bien, tout simplement, un mouvement, le premier mouvement, d'un concerto pour violoncelle et orchestre de Joseph Haydn. Ah, il y en a un qui est très connu en ré majeur. C'est pas celui-là qu'on va écouter. On va écouter le premier mouvement d'un concerto qui est un peu moins connu. Alors en fait, c'est le premier et qui est en do majeur. Voilà, interprété par Aliza Weilerschein, violoncelle, et les solistes de Trondheim, un ensemble qui se réunit pour la circonstance, j'imagine. Et voilà, donc Joseph Haydn, premier mouvement de ce concerto en do majeur. Thank you. Voilà, eh bien, vous avez entendu cette interprétation, une jolie interprétation, très originale. Et moi, j'aime bien ce son de violoncelle qui a une sorte de son de bois qui... voilà, c'est pas vraiment doux, c'est pas... voilà, c'est un peu sauvage. Donc, Haydn par Aliza Weilerstein et les solistes de Trondheim. Voilà, ils ont fait aussi, je vous disais, un disque, peut-être on l'écoutera aujourd'hui ou un autre jour, mais un bel enregistrement de La Nuit Transfigurée de Arnold Schoenberg. Alors, une plaisanterie de mauvais goût. Est-ce que vous savez comment s'est appelé le dernier bourreau de la République française? Vous avez le monsieur qui s'occupait de guillotiner ceux qui avaient été condamnés à mort. Eh bien, il s'appelait Obrecht, André Obrecht. Et alors, j'avais vu dans un livre de San Antonio l'expression suivante, « ça me la coupe », comme dirait Obrecht. Ouais, pour les entrées qui n'est plus comprise de nos jours. Mais si vous lisez San Antonio et que vous tombez sur cette phrase, vous saurez situer la référence. Bon, alors, rien à voir avec, bien sûr, la personne qui déterminait la mort des condamnés par la guillotine. Non, il s'agit d'un musicien qui est tout début... donc, il est mort en 1505. Donc, vous voyez, tout début du XVIe siècle et du XVe siècle, André Obrecht, c'est de la musique religieuse, très belle musique religieuse. Et je vous propose d'écouter donc un Salve Regina, alors interprété par la Camerata d'Oxford, dirigée par Jeremy Summerlee.
Thank you.
Voilà, donc c'était cette pièce de Obrecht, la Salve Regina, c'est Jacob Obrecht, voilà. Il est mort en 1505. C'est pas le plus connu des musiciens, mais c'est une belle œuvre. Alors, premier livre de cette émission, par François Sureau, « S'en aller », François Sureau de l'Académie française. Alors d'abord, c'est une personnalité, François Sureau, c'est un type extraordinaire. D'abord parce qu'il a fait un itinéraire brillantissime, puisqu'il a fait Sciences Po, ELENA, il est sorti de l'ENA, comme on dit, dans la botte, ça veut dire dans les premiers, parce qu'à sa sortie de l'ENA, il a intégré le Conseil d'État, il est devenu auditeur. Alors, vous savez ou vous ne savez pas, mais que si on sort dans la botte de l'ENA, on peut choisir ce qu'on appelle les grands corps, c'est-à-dire le Conseil d'État, la Cour des comptes, le Quai d'Orsay ou le ministère des Finances, et puis un peu moins bien classé, l'inspection générale des affaires sociales. Voilà, donc François Sureau est allé directement au Conseil d'État. Puis ensuite, il a eu une vie de haut fonctionnaire, et il a eu une espèce d'épisode militaire où il s'est engagé, alors il s'est engagé comme colonel, hein, parce que comme il sortait de l'ENA et qu'il était déjà au Conseil d'État, il n'est pas devenu soldat de première classe, mais il s'est engagé dans la Légion et il a été en particulier en Yougoslavie, et pendant la guerre de Yougoslavie, il a été avec son régiment, voilà. Donc, et il a beaucoup écrit, et c'est un type qui est d'une érudition incroyable, et alors il a ses... j'allais dire, il a ses dadas, il a ses domaines. Alors, par exemple, la Seine, le cours de la Seine, il sait tout et le reste sur le cours de la Seine. Il avait fait une série d'émissions sur France Culture où il racontait toutes les histoires qui sont liées aux boucles et aux cours de la Seine. Il a écrit aussi des romans. Et alors, il est entré il y a 2 ou 3 ans à l'Académie française. Et on le voit pas mal dans les médias. Donc voilà, un type excellent. Et alors, son dernier livre, qui a été publié en édition Folio, c'est comme ça que je l'ai acheté, « S'en aller ». Alors, c'est une sorte de dommage général à tous ceux qui sont partis, alors qui ont décidé de voyager. Et c'est pour François Sureau une occasion de rappeler un peu ce qu'il a fait lui-même, les expériences intéressantes qu'il a menées et qui l'ont marqué à propos de tel endroit ou de tel événement ou de tel lieu, tel pays qu'il visite. Voilà. Alors, beaucoup de choses dans ce livre. Il ne faut pas chercher une cohérence vraiment, mais c'est un livre extrêmement agréable, très 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 bien fait, très bien écrit, avec alors juste quelques exemples extraordinaires. Par exemple, quand il est militaire, quand il est à la Légion étrangère, il dit en 1991, j'étais dans un petit poste tenu par l'escadron Rion du 1er étranger de cavalerie. Au Cambodge, non loin de la frontière vietnamienne, j'avais emporté un livre de Larbo que je lisais près du feu, au milieu de cette cour vidée par les Khmers rouges où nous avions établi notre cantonnement. Il dit l'après-midi, il dit, c'était un temps déraisonnable, de belles fonctionnaires australiennes de l'ONU arpentaient en 4x4 des campagnes dévastées où affleuraient les ossements par milliers pour convaincre les jeunes Khmers rouges ivres de sang et de pavots des beautés des œuvres de Montesquieu et de Jefferson. Voilà, extraordinaire. Il y a aussi, il rencontre, alors il est là en tant que légionnaire, en tant que commandant donc le régiment de premier étranger de cavalerie. Et il est là, et il y a un colosse qui vient s'asseoir près de lui et qui commence à lui parler et qui lui dit François Sureau nous dit à la Légion, on ne pose pas de questions. Il dit, mais on n'interroge pas, mais il me dit assez bas, vous pouvez me demander ce que j'ai été avant. Je lui demandais, il avait été professeur de lettres dans un grand lycée parisien, il s'appelait Camille Bergeau, normalien de la promotion de Nizan, il était devenu conseiller culturel de Kemal Atatürk. Un instant, je le déguisais en légionnaire, imaginant ses retrouvailles, il était déjà mort, que je n'ai pas cessé d'espérer. J'étais marié, j'avais deux enfants, j'aimais mon travail. Un soir, c'est lui qui parle, j'aimais mes élèves, un soir je suis parti acheter des cigarettes et je ne suis pas revenu. C'est banal, la vie, vous savez. Voilà. Alors, suis une longue digression sur Arsène Lupin, sur Étretat, sur la fameuse aiguille creuse, et François Sureau nous rappelle, pour ceux qui ne le savaient pas, que les surnoms d'Arsène Lupin dans Le Bouchon de Cristal, l'aiguille creuse, etc., sont tous des anagrammes de Arsène Lupin. Alors il y a Louis Perena, il y a etc., etc. Bon, ensuite, il nous parle de moines de Saint-Vendry, de l'abbaye de Saint-Vendry, où il a séjourné quelque temps, et puis il nous apprend ce que je ne savais pas, que les moines en question ont été expulsés, et carrément expulsés de France, après la loi de 1905 sur la laïcité. Mais ça n'a pas empêché en 1914 l'État français de les retrouver pour leur envoyer une lettre de mobilisation. Voilà. Bon. Et c'est aussi un assez long développement intéressant et sympathique sur la Grande Chartreuse. François Sureau a été élevé au collège Saint-Louis de Gonzague, donc par les jésuites, et il a une sorte de nostalgie de cette époque, et il sait beaucoup de choses sur les ordres religieux, et donc là, quelques pages sur la Grande Chartreuse et sur la vie des Chartreux. Alors, on reconnaît aussi le juriste, car c'est extrêmement documenté et extrêmement précis, extrêmement exact. Voilà. Donc, eh bien... je vous recommande de lire ce livre de François Sureau de l'Académie française. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un essai, c'est un livre très intéressant. Et je vous dis, avantage supplémentaire, on peut le lire par petits morceaux, le prendre, le laisser tomber, revenir dessus. Voilà. Donc, François Sureau, s'en aller. Voilà, bah c'était une sonate, enfin un extrait d'une sonate de Élisabeth Jacquet, Élisabeth Claude Jacquet de la Guerre, 1664-1729. Voilà, c'est une compositrice, je crois bien que c'est même la seule compositrice de cette époque dont le nom nous soit parvenu. Voilà, alors c'était interprété, c'est des sonates à un et deux violons avec viol ou violoncelle obligé, interprété par Frédéric Martin, Odile Édouard, Christine Plubeau, David Simpson, Eric Belloc et Noël Spitt au clavecin et à l'orgue. Ils composent tous l'ensemble Variations. Alors, est-ce que vous connaissez Thomas de Hartmann? Non, vous ne le connaissez pas. 1884-1956. Alors, c'est un disque que j'ai trouvé et qui s'appelle Thomas de Hartmann, redécouvert. Ce sont des œuvres de... Alors, c'est un russe. Et, j'allais dire malgré son nom. Non, après tout, il a un nom. C'est un russe. Et donc, il a fait plusieurs œuvres, concerto pour violoncelle, concerto pour violon. Je vous propose d'écouter un extrait d'un concerto pour violon, opus 66. Ça date de 1943. Et c'est donc l'andante de ce concerto pour violon, interprété par Joshua Bell au violon. Et c'est l'orchestre de la radio de Leipzig, dirigé par Dennis Russell Davis. Yeah. Voilà, c'était l'andante de ce concerto pour violon de Thomas de Hartmann, une œuvre qui date de 1943. Très belle musique, on dirait un peu du Brahms, mais bon, très belle musique quand même. Alors, notre second livre, Abel Quentin, Cabane. J'avais chroniqué sur cette même antenne un premier livre qui s'appelait Le Voyant des Tempes. Et très bon livre. Et celui-là est aussi un très bon livre. Alors, de quoi est-il question ? On est dans les années 50 et quelques, et donc un professeur de l'université de Berkeley met au point une nouvelle science qu'il appelle la systémique, la science des systèmes, c'est-à-dire une démarche qui consiste à regarder et à mathématiser en quelque sorte les réactions que peuvent avoir les divers éléments d'un système, et en l'occurrence la planète Terre et la société humaine. Voilà, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va agir, est-ce qu'il faut par exemple réduire la population, est-ce qu'il voilà. Bon, il s'adjoint les services de quatre étudiants rencontrés à son cours ici et là. Alors, il y a Kerillot qui est un Français, qui est un polytechnicien et qui est allé faire une espèce de stage de post-doc, comme on dit, à Berkeley. Un mathématicien, un matheux norvégien qui nous est présenté comme une sorte de petit génie des maths. Et puis un couple donc Dan et Mildred, qui sont eux aussi spécialisés dans la science des systèmes. Et ils élaborent et ils publient un rapport qui est traduit dans un grand nombre de langues, qui provoque de véritables tempêtes, à la fois pour, mais aussi contre, et qui alerte le monde entier sur les dangers que court tout simplement la civilisation humaine à cause du réchauffement climatique, à cause de la surpopulation, etc., etc. Bon, alors, ce livre, la publication de ce livre les amène à faire des tournées un peu dans le monde entier, où ils présentent leurs livres, les amène à gagner pas mal d'argent aussi. Et par la suite, eh bien, on suit leurs itinéraires. Ils se séparent, ils ne restent pas tous les quatre. Les deux, le garçon et la fille qui sont ensemble, achètent une ferme aux États-Unis, dans le Montana ou dans un coin comme ça, et ils élèvent des porcs, mais de façon humaniste, si j'ose dire, et voilà, où le bien-être animal est respecté. Kerillot, lui, construit une entreprise qui s'appelle Systems, après avoir travaillé chez, enfin, c'est pas nommé, mais enfin, c'est chez Total à l'évidence, et fait beaucoup d'argent. Et le personnage le plus mystérieux, c'est le mathématicien Goodson. Et on va les suivre tous, voir leurs évolutions, et en particulier celui qui fait le plus problème et celui qui est le plus inquiétant, c'est le Norvégien Matteu. Et c'est lui qu'on suit, et on se demande, on voit qu'il a intégré et même animé une sorte de secte, et on se demande comment ça va se terminer. Je ne vais pas vous le dire quand même, vous pouvez lire le livre, c'est de Abel Quentin, Cabane, mais ça se lit vraiment avec beaucoup de plaisir, et donc on a hâte de savoir ce qui va arriver à la fin. Voilà, c'est aux éditions de l'Observatoire, je vous rappelle, Abel Quentin et Cabane. Alors, pour terminer, nous allons écouter quelques Ländler de Schubert. Vous savez, les Ländler, c'est le prototype de la valse. Et c'est des petits morceaux interprétés par Vanessa Wagner. Et c'est un disque qui a été publié et enregistré dans le cadre du festival Mille et Une Notes. Voilà, quelques Ländler de Schubert. Et... Je vous dis au revoir et je vous dis à la semaine prochaine. Thank you.